Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en votre compagnie. Il est 18h30 en temps universel, 19h30 à Bangui. Bienvenue dans cette édition du vendredi 26 octobre 2018. Et au sommaire, en Centrafrique, les députés ont destitué le président de l'Assemblée, Abdoulkarim Mekassoua. Marche de l'opposition à Kinshasa pour protester contre la machine à voter. Affaire Jamal Khashoggi, le procureur général saoudien est attendu dimanche à Istanbul. Ici aux États-Unis, une personne a été arrêtée dans l'enquête sur les colis suspects envoyés à des critiques du président Trump. Ne manquez pas les informations sur l'actualité économique. L'ABAD accorde à la RDC un prêt de plus de 121 millions de dollars pour l'amélioration de la sécurité du transport aérien. Et dans la page sportive, 31e édition du Tour de Faso. Mais tout d'abord, le journal. En République centrafricaine, Abdoulkarim Mekassoua a été destitué du perchoir de l'Assemblée nationale. Le président du Parlement s'est expliqué devant ses collègues sur les faits qui lui sont reprochés, ayant entraîné la signature d'une motion pour sa destitution par 95 députés. Le point avec Freeman Sipila, le correspondant de VO Afrique à Bangui.
Oui, aux dernières nouvelles, le président de l'Assemblée nationale, Abdoulkarim Mekassoua, vient d'être destitué du perchoir de la représentation nationale. C'était donc 140 députés, sur les 140 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, 130 étaient présents et puis 10 qui étaient donc absents ont donné mandat à leur père pour voter en leur nom. Et donc le président de l'Assemblée est destitué avec 98 voix pour, 41 contre et un bulletin nul. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale va se réunir trois jours après cette session pour élire un nouveau président.
Fin de semaine électrique à Kinshasa avec deux grandes manifestations politiques. La marche de l'opposition ce vendredi 26 octobre contre la machine à voter et le meeting de la coalition au pouvoir le samedi 27 octobre dans l'un des plus grands stades de la capitale de la République démocratique du Congo. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Pendant près de trois heures, les leaders de l'opposition, au premier rang desquels Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito, Pierre Lumbi ou encore le candidat président de la République, Théodore Ngoï, ont conduit ensemble cette marche pacifique. De l'échangeur de Limété à la place Triomphale, ses opposants ont, sous l'encadrement d'une police bien présente, conduit quelques milliers de personnes, 4000 selon la police, entre 15 et 20 000 selon les organisateurs, scandant des chants, arborant calicots, drapeaux et banderoles sur lesquels était marqué « Oui aux élections mais sans la machine à voler ». Au point de chute, ils ont remercié les Quinois pour leur mobilisation avant qu'un groupe d'opposants n'aille déposer au bureau de la Commission électorale nationale indépendante le mémorandum rédigé pour la circonstance. Comme à Kinshasa, l'opposition a également marché pacifiquement contre la machine à voter, notamment à Bukavu, à Goma ou à Butembo. Une absence remarquable tout de même à signaler, celle de l'UDPS qui n'a pas rejoint ses pairs de l'opposition ayant opté pour des élections avec ou sans la machine à voter. Kinshasa, Thierry Kamoudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en République démocratique du Congo, deux hommes soupçonnés d'appartenir à un réseau de preneurs d'otages ont été brûlés vifs jeudi à Kinyanja, une localité du Nord Kivu dans l'est du pays, a appris l'AFP vendredi d'un responsable local. Au Cameroun, un enseignant de l'université de Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones, a été tué jeudi par des hommes armés. Des enseignants de l'université de Bamenda pensent que cet assassinat porterait sur la signature des Zamba Boys en référence aux séparatistes anglophones. Le Niger a lancé une campagne de vaccination contre la poliomyélite qui refait surface 12 ans après que l'Organisation mondiale de la santé ait retiré le pays de la liste des États où la maladie est endémique. De nouveaux cas de polio ont été décelés dans la région de Zinder, au centre-sud. Les autorités de Zinder et trois autres régions voisines, Maradi, Agadez et Diffa, ont simultanément mené jeudi des séances de vaccination de masse pour immuniser les enfants. Au Burkina Faso, après le Nord, c'est au tour des enseignants de l'Est de subir la menace des groupes djihadistes armés. Plusieurs écoles sont fermées et certains enseignants fuient la zone. Des djihadistes leur demandent de cesser d'enseigner le français au profit de l'arabe. Nous reviendrons sur ce dossier dans notre partie magazine. Toujours au Burkina, le 15e CIAO, la plus grande foire de l'artisanat en Afrique, a ouvert ses portes à Ouagadougou malgré un contexte national et international difficile, a souligné le ministre burkinabé du commerce, Haruna Kaboré. Quelques 200 journalistes africains se sont penchés ce vendredi sur la couverture médiatique et les stéréotypes entourant le phénomène migratoire lors d'un forum organisé au Maroc à quelques semaines de l'adoption formelle du pacte de l'ONU sur les migrations. Le pacte de l'ONU sur les migrations, considéré comme le premier cadre international sur la gestion des flux migratoires, doit être entériné à Marrakech les 10 et 11 décembre. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a été admis dans un hôpital de Riyad, a indiqué l'agence de presse officielle saoudienne, sans toutefois donner de précision sur la durée ou les causes de l'hospitalisation. Monsieur Bongo était censé participer mercredi à un panel du Forum économique Future Investment Initiative à Riyad, mais il n'a pas été aperçu lors de la discussion. Les organisateurs n'ont pas donné d'explication par rapport à son absence.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une première arrestation a été annoncée dans l'enquête sur les colis suspects adressés à des personnalités anti-Trump, alors que deux nouvelles personnes étaient ciblées. Le président Donald Trump a déjà félicité la police fédérale. Le point avec Morgane Guiriec.
Le président Trump et le ministère américain de la Justice ont confirmé l'arrestation d'une personne. Donald Trump a félicité la police fédérale pour l'arrestation de ce suspect. Les télévisions américaines ont indiqué que l'homme identifié comme César Sayoc a été arrêté en Floride et qu'il aurait une cinquantaine d'années. C'est la première arrestation dans le cadre de la chasse à l'homme lancée pour retrouver le ou les responsables de l'envoi de 12 colis suspects à des personnalités démocrates ou anti-Trump. La police a confirmé avoir retrouvé aujourd'hui deux autres colis contenant des engins qualifiés de potentiellement explosifs. L'un a été retrouvé en Floride, destiné au sénateur démocrate Cory Booker. L'autre a été intercepté dans un bureau de poste de Manhattan, adressé à CNN, à l'attention de l'ex-directeur des renseignements Jens Clapper.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que le procureur saoudien est attendu dimanche à Istanbul dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Il a affirmé détenir des preuves supplémentaires en lien avec ce meurtre. Le point avec Nani Talani.
Dimanche, les Saoudiens vont envoyer leur procureur général en Turquie pour rencontrer notre procureur général à Istanbul, a déclaré le président Tayyip Erdogan lors d'un discours à Ankara. Cette annonce survient après que le procureur général saoudien a évoqué hier pour la première fois le caractère prémédité de ce meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. M. Erdogan a en outre affirmé que les autorités turques sont en possession d'autres éléments de preuve liés au meurtre perpétré le 2 octobre par des agents de Riyad au consulat saoudien à Istanbul. La Turquie a partagé ces informations avec d'autres pays, dont l'Arabie saoudite. Toutefois, le président turc se demande où se trouve le corps du journaliste, ajoutant qui a donné l'ordre, et il faut que les autorités saoudiennes l'expliquent.
En Syrie, 7 civils ont été tués dans des bombardements du régime syrien contre la province d'Idleb, le bilan le plus élevé depuis l'entrée en vigueur d'un accord russo-turc devant éviter un assaut du régime contre cette région du nord-ouest en guerre. 3 enfants figurent parmi les personnes tuées dans un village de ce dernier grand bastion insurgé, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Toujours au Proche-Orient, 5 Palestiniens âgés de 19 à 25 ans ont été tués dans la bande de Gaza lors de manifestations et d'heures avec les soldats israéliens postés le long de la barrière séparant Israël de l'enclave palestinienne, a indiqué le ministère gazaoui de la Santé. Au moins 213 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début de ces manifestations. L'État hébreu accuse le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, d'orchestrer ces incidents. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a effectué une visite inédite à Oman, où il a été reçu par le sultan Qaboos Ben Saïd. Les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Cette visite est un pas important dans la mise en œuvre de la politique du Premier ministre israélien visant à approfondir les relations avec les pays de la région, dit un communiqué de Tel Aviv. Israël n'a pas de relations diplomatiques, uniquement dans la région avec l'Égypte et la Jordanie parmi les pays arabes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La BAD accorde à la RDC un financement de plus de 121 millions de dollars pour l'amélioration de la sécurité du transport aérien. Ce projet va développer un réseau intégré de transport capable de relier tous les pôles économiques du pays. Il prévoit en 4 ans la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires d'Okindu, de Kisangani et de Mbujimayi. Il faut aussi ajouter l'acquisition d'équipements de navigation aérienne, le renforcement des capacités des personnels techniques de l'autorité de l'aviation civile et de la régie des voies aériennes et l'adhésion de la RDC au marché unique du transport aérien en Afrique. Kenya Airways inaugure dimanche prochain son tout premier vol direct vers les États-Unis. L'avion partira de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi et atterrira à l'aéroport JFK Kennedy à New York. L'appareil effectuera 14 heures de vol. Le Kenya veut augmenter le nombre de touristes pour passer de 87 000 à 120 000 par an. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a tenté de rassurer les investisseurs étrangers inquiets de la réforme foncière. Il a assuré que les entreprises seraient épargnées. Son projet prévoit des expropriations de terres sans compensation. Parallèlement, le président Ramaphosa s'est engagé à lever 100 milliards de dollars d'investissement en 5 ans pour relancer l'économie.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
C'est parti pour la 31e édition du Tour du Faso.
Florian Smith a enlevé la première étape courue ce matin entre Ouagadougou et Manga, longue de 100 km. Le Burkinabé Paul Domont a enfilé plusieurs maillots, dont ceux de la combativité et des points chauds. Au total, 76 coureurs répartis en 13 équipes prennent part à ce tour cycliste. Les Pays-Bas, la France, la Belgique, l'Algérie, le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Burkina Faso, qui a aligné 3 équipes, prennent part à cette 31e édition. Les étalons veulent réussir leur tour à domicile. Écoutons l'un d'eux, Mathias Sorgo.
Et nous sommes venus en tout cas ici ce matin avec le moral haut. Et nous sommes prêts physiquement et psychologiquement pour aborder cette compétition avec sérénité et récupérer le maillot jaune.
Le Tour du Faso se poursuivra jusqu'au 4 novembre avec 1200 km à parcourir en 10 étapes. La deuxième étape, Manga-Bolgatanga, 155 km, va se courir demain.
Handball, la Confédération africaine de handball a attribué ces compétitions jusqu'en 2024.
Oui, la CAB a procédé ainsi lors de son assemblée générale tenue à Abidjan en marge du 40e championnat d'Afrique des clubs champions. Le Cap Vert a obtenu l'organisation de la CAN Dame 2022. Le Maroc habitera le tournoi masculin. En 2024, la CAN masculine aura lieu en Algérie, tandis que le Sénégal organisera celle des dames.
Football, le conseil de la FIFA s'est réuni à Kigali aujourd'hui.
La FIFA a créé une commission pour étudier les projets de réforme de la Coupe du Monde des clubs et de création d'une Ligue mondiale des nations. Son président Gianni Infantino souhaite lancer une sorte de mini-Coupe du Monde avec la Ligue mondiale des nations qui regrouperait tous les 2 ans 8 sélections nationales. Il voudrait aussi redonner de l'intérêt à la Coupe du Monde des clubs en la remplaçant par une compétition ayant lieu tous les 4 ans avec 24 clubs, dont 12 européens, et prenant la place de la Coupe des Confédérations.
basketball, Détroit, c'est costaud en NBA.
Et oui, Détroit a préservé son invincibilité en dominant Cleveland 110-103, tandis que les Los Angeles Lakers, portés par l'inévitable LeBron James, ont enchaîné une deuxième victoire en 24 heures 121-114 face à Denver. Oklahoma City a concédé sa quatrième défaite consécutive face à Boston 101-95.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. La nouvelle du jour, c'est la destitution en Centrafrique d'Abdoul Karim Mekwassoua du perchoir de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette destitution de Mekwassoua, ancien Premier ministre et aussi leader musulman, est arrivée comme une surprise? Abdourahmane Dia s'est entretenu avec notre correspondant à Bangui et c'est donc Freeman Sipila.
C'est pas vraiment une surprise hein, pour de nombreux centrafricains parce que déjà 95 députés, comme vous l'avez dit, avaient signé cette motion de destitution le 17 octobre dernier. Ces députés hein, qui reprochent à Abdoul Karim Mekwassoua une gestion calamiteuse du Parlement et également une gestion basée sur le clanisme. Donc, en Centrafrique, hein, pour de nombreux Centrafricains, ce n'est pas une surprise.
Que disent aujourd'hui ces partisans? Quelle est leur réaction?
Une réaction officielle, pas encore, mais tout à l'heure, hein, durant les débats à l'Assemblée nationale, ces partisans qui sont aussi dans un groupe parlementaire, Chemin de l'Espérance, avaient aussi pris la parole pour appeler leurs collègues députés au bon sens hein, de penser aux conséquences de leur décision de ne pas voir hein, ce qui se passe aujourd'hui. Parce que pour de nombreux députés qui sont proches de Mekwassoua, cette histoire est une histoire entre individus, ce n'est pas une histoire du Parlement, mais c'est un problème politique transposé à la représentation nationale centrafricaine. Pour l'instant, pas de réaction officielle, sauf les quelques tirs qui viennent d'être entendus dans le quartier PK5, le quartier dans lequel habite Abdoul Karim Mekwassoua, mais pour l'instant est calme, précaire dans ce quartier et dans les alentours.
Justement, est-ce qu'on ne craint pas quand même des conséquences du fait que Abdoul Karim Mekwassoua a été nommé principalement pour essayer de jouer aux équilibres entre les communautés, sachant que le pays traverse une crise assez difficile? Est-ce que cela ne va pas avoir un impact sur cette cohésion?
Et justement, c'est une position qui a été démentie par les parlementaires tout à l'heure lors de leur débat. Ils ont dit qu'Abdoul Karim Mekwassoua était élu à la tête du Parlement, pas parce qu'il est musulman, parce qu'il est centrafricain, parce qu'il est député. Hein, pour les parlementaires qui se sont prononcés pour cette destitution, il est important aujourd'hui, après tous ces moments de crise, de respecter les textes, c'est ce que dit la Constitution centrafricaine, également l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit si le président de l'Assemblée nationale fait donc objet de manquement à ses devoirs, il peut être destitué par les deux tiers des députés. Et donc ce nombre 98 que vous avez suivi tout à l'heure dépasse largement les deux tiers pour les députés. C'est pas parce que Mekwassoua est musulman qui est destitué, mais c'est parce qu'il est centrafricain et qu'il pense que sa manière de gérer le Parlement n'est pas conforme à la démocratie.
Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui. À deux mois des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre, l'opposition est descendue dans la rue ce vendredi en République démocratique du Congo pour dénoncer la machine à voter et le fichier électoral. Des figures de l'opposition étaient à la tête de la manifestation. Raissa Girondin a joué à Kinshasa, Stani Boujakera, Chimala, directeur de publication du site en ligne actualité.cd.
À l'exception de l'UDPS, il y a les autres forces politiques de l'opposition qui ont décidé d'aller jusqu'au bout. En termes de chiffres, en tout cas, la mobilisation, je dois être clair, ça n'a pas été à la hauteur, ça n'a pas été comme attendu. On n'a pas vu tout Kinshasa s'emballer dans cette mobilisation.
Pour l'opposition, la mise à l'écart de la machine à voter, c'est un préalable pour sa participation aux prochaines élections. Mais quelles sont les alternatives proposées à cette machine à voter ?
Pour l'UDPS, il est question de dire que nous sommes prêts pour les élections, donc ils sont prêts pour les élections et qu'ils ne sont pas dans la logique de boycott des élections. Ils ont décidé d'aller aux élections avec ou sans cette machine, avec ou sans les fichiers électoraux actuels. Mais de l'autre côté, officiellement, peut-être ils ne l'ont pas encore dit. On voit comment est-ce que leurs militants, parfois même les cadres de ces différents partis, s'entracusent. On voit comment ils s'insultent dans les réseaux sociaux. Donc, il y a une division. Donc, il y a une partie de l'opinion qui se pose quand même des questions sur est-ce qu'il n'existe-t-il pas un duel entre Félix Tshisekedi et le pouvoir en place.
Cette marche dénonçait également des milliers d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. Comment l'opposition compte résoudre ce problème à 2 mois des élections?
C'est difficile que dans les 2 mois qui nous séparent de la date des élections, que nous puissions voir des élections. Et techniquement, à cette question, il est difficile de trouver une entente. Tout ce que les acteurs politiques peuvent faire, c'est d'aller aux élections, de préparer leur base.
Les discussions de Johannesburg doivent aboutir sur un consensus autour d'un candidat unique de l'opposition. Est-ce que, selon vous, il y a une garantie que l'opposition choisisse ce candidat au mois de novembre ?
Entendre certains responsables de l'UDPS, dont le secrétaire général Jean-Marc Kabound et le secrétaire général adjoint, l'ancien porte-parole Augustin Kabou, il y a des problèmes sérieux au sein de cette opposition. Et aujourd'hui, moi personnellement, je ne vois pas Félix Tshisekedi accepter de laisser la place, par exemple, à Vital Kamerhe, à Martin Fayulu, à Freddy Matungulu qui sont encore en lice. Ça n'arrivera jamais. Et je ne vois pas non plus Vital Kamerhe, qui n'a pas soutenu Étienne Tshisekedi en 2011, soutenir aujourd'hui Félix Tshisekedi au sujet de la candidature commune de l'opposition. Je ne crois pas, ça n'arrivera jamais. Il y aura peut-être un consensus de 2 ou 3 personnes sur un candidat, mais est-ce que cela suffit?
Suite à cette marche, quelles sont les réactions du parti au pouvoir?
Le pouvoir, avec la plateforme Les Fronts communs pour le Congo, qui a appelé à une manifestation demain, un meeting qui s'étendra au stade Tata Raphaël. Et là, il y aura une autre démonstration des forces. C'est sûr, le pouvoir, avec tous les moyens qu'ils ont, ils vont mobiliser, et peut-être ils pourront remplir les stades Tata Raphaël. Voilà qu'ils vont dire, regardez, la population est plutôt avec nous.
Le journaliste Annie Boujakera Tshamala, joint à Kinshasa. Au Burkina, après le Nord, c'est au tour des enseignants de l'Est de subir la menace de groupes armés. Plusieurs écoles sont fermées et certains enseignants ont fui la zone. Des djihadistes leur demandent de cesser d'enseigner le français au profit de l'arabe. Bagassi Koura a joint à Macha Kaoli un enseignant qui dit avoir fermé son école et quitté son poste. Il a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Il y a 2 femmes qui sont venues, ils ont dit non, qu'en fait, ils sont venus demander d'après nous, soit disant les terroristes. Voilà, ils sont venus demander d'après les anciens. Bon, ils n'étaient pas arrivés d'abord. Après ça, maintenant, bon, la suppose est venue à moi, ils disent c'est comme ça, je vais répliquer.
Et donc, actuellement, à cause de la peur, vous n'êtes pas à votre poste?
Oui, on dit à cause de la peur, puisque moi-même, je peux dire, j'ai croisé même ces gens-là, même si c'est à moitié. Puis, le lendemain matin, je repliais pour Fada.
Et vous les avez croisés?
J'ai vu le conseiller qui revenait en pleine vitesse. Puis, il se rendait à Kouali. Voilà, en cours de route, là, il a croisé 2 personnes sur une moto, cagoulées et puis armées. Donc, il m'a fait savoir que les gens là sont devant. Il a dit, si c'est ça, on va prendre au moins 1h30, 2h, voir s'ils vont partir. Et à ce moment-là, puisqu'on cherche le conseiller du village, j'avais appris qu'on a égorgé un conseiller là-bas, non?
Non, on n'a pas appris ça. Et ça, c'était quand?
C'était avant la rentrée.
Donc en septembre?
Voilà, fin septembre comme ça, entre le 26 en allant là. Donc on le cherchait aussi. Et depuis lors, il ne dort plus chez lui.
Le conseiller pédagogique?
Non. Bon, ils travaillent pour l'administration. Ils sont contre tous ceux qui ont un lien avec l'administration.
Quelles sont les autorités qui sont encore sur place? Il y a un préfet, il y a une gendarmerie, il y a une police. Qui est là-bas?
Le maire a évacué sa femme Kafada. Le préfet aussi n'est plus là-bas. Donc, c'est la police et puis la gendarmerie sûrement.
Récemment, le président Kabore a dit que des mesures allaient être prises, notamment pour sécuriser l'est du pays. Est-ce que vous avez senti un changement?
Je peux dire qu'on n'a pas senti un changement parce que le problème, c'est quoi? Je vous ai dit tout récemment, je crois qu'il y a 2 ou 4 jours de cela, ils sont venus dans un village non loin de Matakwali et ils ont menacé des enseignants en disant comme quoi d'enseigner l'arabe en pleine journée, d'enseigner l'arabe. Si c'est pas ça, bon, c'est mieux de fermer.
Qu'est-ce qui se dit dans la région là-bas? Est-ce que les gens, les habitants et aussi les fonctionnaires se sentent abandonnés?
On peut le dire ça, parce que bon, c'est compliqué. Moi, je peux dire particulièrement, la région de l'Est a été abandonnée. Ça, il faut le dire.
Quand vous regardez cette situation, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette année scolaire-là?
Bon, ça va être compliqué. C'est pas évident qu'on va pouvoir rattraper ce temps perdu.
Un enseignant dans l'est du Burkina.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
À moins de 2 semaines des élections de mi-mandat, des colis suspects s'invitent dans la campagne déjà bien polarisée. Des colis dits potentiellement explosifs ont été envoyés à plusieurs éminents démocrates, dont l'ancien président Barack Obama et à l'acteur Robert De Niro, très critique du président Trump. Un suspect vient d'ailleurs d'être arrêté, mais tout cela est venu enflammer la rhétorique, même si chaque camp appelle à calmer les esprits. Un reportage de Jim Malone, le récit est de Chérubin Dorsine.
Donald Trump à la Maison-Blanche a confirmé ce vendredi l'arrestation en Floride d'un suspect dans cette affaire de colis piégés et félicité les forces de l'ordre pour leur célérité et leur efficacité. Un ouf de soulagement, certes, surtout que les élections de mi-mandat arrivent dans quelques jours. La veille, dans le Wisconsin,
Donald J. Trump.
Le président américain avait lancé un appel au calme.
Nous voulons que toutes les parties se mettent ensemble dans la paix et l'harmonie. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Ça va arriver.
Mais Donald Trump s'en est aussi pris aux médias. Il a écrit jeudi sur Twitter « Une grande partie de la colère que nous voyons aujourd'hui dans notre société est causée par le traitement intentionnellement inexact et imprécis des médias traditionnels que j'appelle les « fake news ». Malgré tout, il a plaidé pour la modération dans le débat politique de plus en plus passionné et passionnel des deux côtés.
Ceux qui sont engagés dans l'arène politique doivent cesser de qualifier leurs opposants de moralement défaillants. Nous devons le faire.
Les démocrates ont aussitôt rebondi, disant que le président Trump est le principal instigateur de la tension avec ses attaques partisanes. Il l'accuse de cautionner la violence et d'attiser les divisions. Bill de Blasio, maire de New York.
C'est un moment difficile pour notre nation. C'est un moment où les gens pensent qu'il y a beaucoup de haine en l'air et des incidents comme celui-ci augmentent leur douleur et exacerbent la peur.
Durant cette campagne, le président Trump a souvent agressivement attaqué les démocrates, particulièrement pendant un meeting récent dans le Montana.
Le parti démocrate est devenu trop extrême pour qu'on puisse lui remettre le pouvoir. Ses politiques radicales sont un danger pour nos familles et notre pays.
Avant les colis suspects ciblant des leaders démocrates, le président Trump avait plus l'attention tournée vers la caravane de migrants qui veut traverser le Mexique pour chercher à entrer illégalement aux États-Unis. Les démocrates répondent par une campagne acharnée pour appeler les électeurs à sortir voter massivement afin de faire la différence. L'ancien président Barack Obama a même retroussé ses manches.
Les enjeux sont élevés. Les conséquences de ne pas aller voter, ne pas faire tout ce que vous pouvez pour que vos amis, vos voisins, votre famille aillent voter, les conséquences si vous restez à la maison seraient extrêmement dangereuses pour notre pays et notre démocratie.
Chaque parti cherche à mobiliser sa base à quelques jours de ce scrutin crucial. David Baker, analyste politique à American University, ici même dans la capitale américaine.
Chaque parti a besoin que ses militants sortent le jour du scrutin. Traditionnellement, c'est plus difficile pour les démocrates car les républicains sont plus enclins à le faire quoi qu'il arrive.
Malgré tout, les démocrates sont confiants. Jim Kessler s'occupe de la stratégie démocrate.
Il y a une déferlante bleue qui arrive. La question est, quelle sera son étendue? Je crois que les démocrates vont reprendre la Chambre, mais je ne pense pas qu'ils vont reprendre le Sénat.
Pendant ce temps, la caravane de migrants continue sa longue marche vers la frontière américaine. Est-ce que ces surprises tardives du mois d'octobre vont déterminer qui des démocrates ou des républicains va contrôler le Congrès des États-Unis pour les deux prochaines années? Le soir du 6 novembre sera l'heure de vérité.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, les Lionel Gaïma et Firmin Koyaweda. À la console, Adrios Rigueus. À la présentation, Ekiabadou.